RFI Matin, 6h44 en temps universel. La suite, c'est évidemment un nouveau journal dans un quart d'heure, tout juste, alors qu'on attend la libération de 3 otages israéliens dans la bande de Gaza et celle de 369 prisonniers palestiniens. On fait le point avec Michel Paul à Jérusalem, notre correspondant qu'on appelle en direct à 7h, temps universel. Et la suite, d'abord, c'est un cap vers la Corée du Sud, pays confronté, comme beaucoup d'autres, à la baisse des naissances et des mariages, à tel point que la mairie de Séoul a décidé de s'en mêler avec un événement incongru hier. Pour la Saint-Valentin, un grand speed dating municipal. 50 hommes, 50 femmes invités à se rencontrer pour la première fois et tenter de se séduire ou de trouver des atomes crochus. Que ce soit son rôle ou non, la mairie ne cache pas son objectif. Former des nouveaux couples. Célio Fioretti.
Dîner, vin pétillant et œuvres d'art, la mairie de Séoul sort le grand jeu pour cette Saint-Valentin dans l'espoir de former de nouveaux couples. Une intrusion des pouvoirs publics dans ce qui est habituellement de l'ordre du privé, mais nécessaire selon les organisateurs comme Park Suki, en charge de la lutte contre la dénatalité à la mairie de Séoul.
Au-delà de simples rencontres, ce programme vise à créer des couples qui peuvent se marier, avoir des enfants, car c'est une grande problématique de notre pays. La mairie aide par ailleurs les mariages avec un chèque de 700 euros pour les jeunes mariés cette année à Séoul.
En 2024, le taux de natalité de la Corée du Sud s'élevait à 0,7 enfants par femme, le plus bas au monde, et le nombre de mariages diminue également. D'après un récent sondage, 40% des Sud-Coréens entre 20 et 50 ans ne souhaitent pas se marier. Coûts financiers importants ou manque d'égalité au sein des couples, les arguments sont divers. Mais pour ces deux participants venus aujourd'hui au blind dating, il s'agit avant tout de faire des rencontres.
Je pense que c'est difficile de trouver l'amour de nos jours, parce qu'il y a peu de gens qui correspondent à mon style. Et aussi parce qu'il est difficile de tomber sur quelqu'un avec qui l'entente est réciproque.
Oui, ces jours-ci, les gens ne se rencontrent plus. Nous n'avons pas forcément le temps, l'occasion de faire de belles rencontres. Alors un événement comme celui-ci, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si je trouverai l'amour, mais ça peut aider.
Les deux jeunes prétendants continuent leur dîner, mais une question se pose. Ce genre d'événement est-il bien efficace pour créer des nouveaux couples? Depuis quelques années, différentes villes du pays s'y sont essayées et beaucoup ont annulé leur programme de speed dating. Trop peu de volontaires et de couples à la sortie. Park Suki, de la mairie de Séoul, défend tout de même son programme.
Nous avons eu de bons résultats les années précédentes avec 22 couples sur 100 participants. Bien sûr, la crise de dénatalité n'est pas seulement une affaire de rencontre. Il faut réfléchir aux problèmes pour trouver un logement, à l'équilibre entre vie et travail. Mais je pense que le blind dating peut être un point de départ.
Après s'être rencontrés et avoir dîné ensemble, les participants pourront choisir leurs 3 personnes préférées. La mairie leur communiquera ses noms dès le lendemain, dans l'espoir qu'ils se retrouvent pour un nouveau rendez-vous galant. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Notre reportage international en Corée du Sud à retrouver sur RFI.fr. C'est aujourd'hui à Addis Abeba le début du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le 38e, au lendemain d'un conseil paix et sécurité sous haute tension, alors que le M23, soutenu par le Rwanda, continue son offensive dans l'est de la RDC, alors que la guerre au Soudan dure depuis bientôt 2 ans. L'organisation est de plus en plus critiquée pour son impuissance face aux conflits et aux crises qui se multiplient sur le continent. Comment expliquer sa faiblesse et relever ses défis? Notre grand invité Afrique pour en parler ce matin, la chercheuse à l'International Crisis Group et spécialiste de l'Union africaine, Liesel Law, est au micro de Florence Maurice.
Bonjour Liesel Law.
Bonjour.
Lors de son premier discours d'adieu mercredi, Moussa Faki Mahamat a invité les chefs d'État de l'Union africaine à se ressaisir. Il s'est montré inquiet pour la survie de l'organisation. Est-ce que le rêve d'une institution panafricaine forte est menacé aujourd'hui?
C'est vrai que nous voyons ces dernières années des États qui ne voient franchement pas l'intérêt de l'Union africaine pour eux, pour même pour les processus de paix. Donc ce sont des organisations régionales qui pour la plupart gèrent les conflits dans leur région. Nous avons 6 États suspendus de l'Union africaine à cause des coups d'État. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui éventuellement vont revenir, mais surtout les États de l'AES maintenant sont isolés et nous voyons le dialogue entre l'Union africaine et ses États ne sont pas vraiment entamés. Donc je pense que l'Union africaine de son côté n'a pas montré vraiment son efficacité.
Comment expliquer cet affaissement?
On peut critiquer Moussa Faki Mahamat et son staff de ne pas avoir été vraiment en avance, par exemple sur le conflit du Soudan. C'est le conflit avec l'impact humanitaire le plus grave au monde, mais on n'en parle pas. Au minimum, on aurait voulu voir l'Union africaine mettre l'accent sur ces graves conflits dans toutes les réunions à l'ONU, dans les réunions internationales, mais aussi bien sûr, nous sommes dans un contexte international où le multilatéralisme vraiment est en crise. Donc, c'est pas totalement aussi le faute de l'Union africaine, mais d'autres facteurs internationaux.
Est-ce que l'élection de Donald Trump aux États-Unis rend l'Union africaine encore plus seule face à tous ces défis?
C'est vrai que c'est très inquiétant parce que c'est un peu imprévisible. On ne sait pas quel va être l'impact, par exemple, sur la force de l'Union africaine en Somalie, qui dépend beaucoup de financement de l'ONU. Et les États-Unis sont un grand financement du budget des opérations de paix de l'ONU. Ça peut avoir un impact, mais ça ne va pas vraiment avoir un impact direct sur l'Union africaine en tant qu'organisation.
Au cœur de ce sommet, il y a bien sûr le conflit dans l'est de la RDC, avec un risque de déflagration régionale. Le Conseil paix et sécurité a entériné hier la fusion des processus de Luanda et Nairobi. Est-ce que c'est une bonne idée?
C'est une bonne idée s'il n'y a pas trop d'initiatives parallèles, trop de médiateurs. Et l'inquiétude, c'était un peu que le processus de Luanda ne disparaisse parce que l'EAC, à un moment donné, voulait un peu que le processus de Nairobi soit le seul processus. Donc, convaincre la RDC de dialoguer avec le M23. Mais nous pensons aussi que c'est aussi important, c'est le processus de Luanda, parce que c'est le dialogue entre la RDC et le Rwanda qui, aujourd'hui, le Rwanda soutient le M23.
Mercredi, le Rwanda a échoué à obtenir le poste au sein du Conseil paix et sécurité que le pays briguait. Le Rwanda est arrivé 3e derrière l'Éthiopie et la Somalie. Est-ce qu'il faut y voir une forme de sanction de la part des États membres?
C'est possible. C'est vrai que le Congo, RDC, est toujours un membre pour 2 ans. Donc, si le Rwanda s'est joint au Conseil de paix et de sécurité, ça aurait été une opportunité pour le Rwanda d'éventuellement bloquer d'autres initiatives du Conseil de paix et de sécurité. Le Rwanda, depuis beaucoup d'années, très influent ici à l'Union africaine, surtout le président Paul Kagame qui gérait les réformes de l'Union africaine. Et donc, on peut voir ça éventuellement comme un manque de poids et de l'influence, mais il faut aussi se rendre compte que c'est un jeu parfois des États. Donc, les autres membres peuvent par exemple, soutenir un candidat pour un commissaire en échange d'un vote au CPS. Donc, on ne peut pas déduire toujours que, par exemple, un pays a perdu de l'influence parce qu'il a pu gagner ailleurs. Mais quand même, je pense que le Rwanda ne devrait pas être content de ne pas avoir été élu.
Lise Lowe, spécialiste de l'Union africaine à l'International Crisis Group, avec Florence Maurice. Et dans notre reportage Afrique, la suite à présent de notre série sur l'épidémie de choléra qui touche le Soudan du Sud depuis le mois d'octobre. Déjà plus de 26 000 cas et 455 morts. Nous sommes ce matin dans un quartier de l'ouest de Djouba à la rencontre d'une famille endeuillée par la mort de l'un des siens. Malgré une campagne de vaccination et des efforts des autorités sanitaires ainsi que de Médecins sans frontières pour informer la population, ce quartier est l'un des endroits où l'épidémie continue en cause de l'absence de système d'assainissement notamment l'accès quasi inexistant à l'eau potable et la présence d'une immense déchetterie en plein cœur de la zone résidentielle. Florence Mietto.
Accroché à une colline rocailleuse, le quartier de Djebel Timan est peuplé de maisons en bambou et en torchis. Des habitations à étages se dressent aussi ça et là, inachevées, dans ce quartier qui reste l'un des plus sous-développés de la capitale sud-soudanaise. Un quartier toujours en proie à l'épidémie de choléra. En janvier, Albino Diari Warnyang, le pasteur de la communauté, a brutalement perdu son frère de 75 ans à cause de la maladie.
C'est arrivé le 13 janvier. Il a commencé à être malade à 4h du matin et il est mort le même jour à 15h. Nous l'avons emmené dans une clinique à 6h du matin et lui ont donné 7 perfusions d'affilée. Puis le docteur nous a dit de le ramener à la maison pour qu'il se repose. Mais une fois qu'on est arrivé chez nous, il est mort.
Une campagne de vaccination s'est déroulée fin janvier dans la communauté et la famille proche d'Albino Diari Warnyang a été vaccinée. Mais le pasteur reste inquiet.
Nous restons vigilants car le choléra est toujours parmi nous. Et il y a encore des gens qui n'ont pas été vaccinés.
Si personne ne sait exactement comment le choléra est arrivé jusqu'ici, les premières victimes ont été rapportées parmi les nombreux récupérateurs de déchets qui survivent en fouillant dans l'immense décharge située en plein cœur de Djebel Timan. 3 d'entre eux sont morts au mois de décembre. Mathieu Boya, le chef traditionnel du quartier, souhaite la fermeture de ce site.
Les quartiers de Djouba qui n'ont pas de déchetterie n'ont pas eu autant de cas de choléra. Mais nous, ici, nous avons eu beaucoup de cas et des gens sont morts. Hier encore, un homme a dû être emmené au centre de traitement du choléra de Gouréi.
Il est d'autant plus difficile de contenir l'épidémie qu'il n'y a aucun système d'assainissement à Djebel Timan et un seul puits d'eau potable payant pour plus de 6000 personnes. L'immense majorité des habitants boit l'eau de puits creusée dans la terre, comme celui que nous montre Justin Passy Major, un voisin. Une sorte de flaque d'eau profonde entourée de pierres et d'herbes au bord de laquelle traînent des bouteilles en plastique.
L'eau elle-même est propre, mais si par exemple des chèvres viennent boire ici, elles peuvent contaminer l'eau avec des bactéries. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière autour du puits. Mais si on pouvait en construire une, creuser plus profond et utiliser du chlore, alors on serait protégé.
Les appels de la communauté pour la construction de nouveaux puits, de latrines, ainsi que pour la fermeture de la déchetterie sont pour l'instant restés sans réponse. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Et la suite de notre série au Soudan du Sud, demain, même heure sur RFI. L'actualité des médias comme chaque samedi. Bonjour Amaury Drochegonde.
Bonjour Julien.
Nous parlons aujourd'hui de la plateforme britannique DAZN, principal diffuseur de matchs de la Ligue 1, qui refuse de payer une partie de l'échéance qu'elle doit pour le championnat du foot français.
Oui, la LFP, la Ligue de football professionnelle, a d'ailleurs porté plainte en référé. Le tribunal de commerce de Paris a statué hier et devrait rendre sa décision dans les prochains jours. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'une affaire de gros sous, mais pour parfois de petits clubs, car l'argent des droits du foot, cela soutient les grands clubs, mais c'est essentiel pour les clubs plus modestes qui n'ont pratiquement pas d'autres ressources et pour le sport amateur via une taxe de 5%. Alors effectivement, DAZN refuse de verser à la Ligue la moitié de la quatrième échéance des droits, soit 35 millions d'euros. La plateforme britannique invoque deux motifs, le piratage élevé et la mauvaise volonté des grands clubs de fournir des images sur les à-côtés des matchs, comme des interviews de joueurs qu'ils préfèrent se préserver.
Et le piratage, c'est un problème ardu dans le foot.
C'est une pratique qui s'est incontestablement popularisée. En octobre dernier, la LFP avait indiqué que 55% des téléspectateurs du match vedette OM-PSG avaient regardé le match illégalement. Et pourtant, l'ARCOM, chargé de la lutte contre le piratage, avait bloqué 340 noms de domaine sur Internet avant le coup d'envoi. Mais c'est un peu comme écoper dans un bateau qui prend l'eau avec une passoire, car le propre des matchs, c'est qu'ils se regardent en direct. Il faut bloquer le site pirate pendant la retransmission, ni avant ni après. Près de 7000 sites ont été bloqués depuis 2021, où on a permis un blocage plus dynamique. Mais selon les professionnels, c'est une goutte d'eau. Il faudrait que les titulaires de droits puissent faire bloquer les diffusions pirates directement par les fournisseurs d'accès à Internet en temps réel, comme en Italie ou au Royaume-Uni.
Mais DAZN est aussi mise en cause pour sa politique tarifaire.
Oui, pour 2024-2029, où elle paye 400 millions d'euros par an, la plateforme a obtenu 8 matchs sur 9 cet été, en proposant des prix à 30 voire 40 euros par mois. Ce n'est pas loin de ce qui se fait ailleurs en Europe, mais c'est plus cher que ce qui se pratiquait jusque-là en France. Des signaux ont alors clignoté pour montrer une recrudescence du piratage et le diffuseur a pris du retard dans sa conquête d'abonnés. Il lui en faudrait 1,5 million à la fin de l'année. Il n'en aurait que le tiers aujourd'hui. Or, une clause de sortie permet de mettre fin au contrat si le chiffre n'est pas atteint. Depuis, DAZN multiplie les promotions de milieu ou de fin de saison. Mais la faillite de Mediapro est dans toutes les têtes. Et un grand absent, Canal+, est regardé avec un brin de nostalgie.
Amaury Drochegonde, merci beaucoup.
L'atelier politique, Frédéric Rivière.
Bonjour, je vous donne rendez-vous tous les samedis pour un entretien avec une personnalité politique, philosophe ou encore sociologue, avec l'ambition de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir aux grands sujets qui traversent et traverseront la France et le monde aujourd'hui et dans les prochaines années.
L'atelier politique avec Frédéric Rivière, tous les samedis à 17h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Jeanne Chéral.
RFI Musique.